Je vous dis bonsoir. C'est le début de la ciné-conférence Utopia Mola, numéro 1 pour cette année. Vous savez, depuis quelques années, on fait un jumelage entre une séance à l'Utopia le lundi soir et une petite conférence ici le mardi dans la soirée. C'est toujours très, très agréable pour moi. Je suppose que si vous êtes venu, même si vous n'êtes pas venu hier soir à l'Utopia, vous avez vu le film, qui est l'un des grands films de l'année. L'album est numéro 1 des ventes de la bande son, l'une des sources du film de Tarantino, comme de tant d'autres films appelés de près ou de loin Django, parce qu'il y a soit une trentaine, soit des centaines de films qui se réclament d'incorporer un héros sur le modèle de ce Django. Bon, allez savoir quelle est vraiment la différence très profonde avec les western spaghetti de Sergio Leone. C'est peut-être une question de qualité, de moyens. Vous avez remarqué que c'est un peu cheap, que c'est très violent, que les personnages ne sont pas très développés, que le dialogue est bas de gamme. Et vous avez certainement, si vous avez vu le film de Tarantino, remarqué certaines choses qui relient même cette première partie du film de Corbucci avec le film de Tarantino. Donc d'abord, vous avez vu, il y a deux équipes opposées. Et hier soir, Xavier Davra, professeur à Bordeaux 4, a très brillamment exposé le Western Spaghetti dans son contexte des années de plomb italien. Excusez-moi. Vous avez vu le paysage rugueux, la boue partout, le cow-boy solitaire qui part dans le lointain, traînant son cercueil. Alors ça, c'est une idée de Corbucci qui est parfaitement aléatoire. Il a vu apparemment un comics japonais, un cowboy qui traînait un cercueil, et il s'est dit, quelle bonne idée, je vais faire un film sur ça. Alors, on a la différence avec le début du film de Tarantino, c'est que ce n'est pas de la boue, mais c'est les mines, la pierre partout, c'est minéral, rien ne pousse, c'est désolant, c'est une image de l'enfer. Mais au lieu d'arriver sur l'écran comme fait ici Django, il arrive comme un personnage de Tarantino, comme Jackie Brown, si vous avez vu ce film récemment, c'est-à-dire il glisse à travers l'écran avant qu'on le découvre dans un fil d'esclave. Alors, la question qu'on s'est posée hier soir, comme c'était un lundi Sciences Po Bordeaux du film politique, c'était de savoir si le film était oui ou non politique. Et moi, je me suis dit, bon, je vais prendre le parti de dire que c'est politique et qu'il y a deux films de Tarantino qui sont particulièrement politiques en comparaison aux autres. C'est Inglourious Basterds de 2009 et ce film-là, donc Django de 2012. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils sont politique, et en passant, on va déterrer beaucoup, j'espère, éclaircir plusieurs éléments du film et du cinéma de Tarantino en général qui m'impressionnent vraiment, parce que je pense que c'est un grand film, c'est un film drôle, c'est un film violent, c'est un film passionnant par la qualité du dialogue, par les mélanges du lyrisme vraiment poétique, et aussi par la richesse de ses références aux autres films de l'auteur lui-même et à toute l'histoire du cinéma, mais surtout aux films des années 70. Alors, Tarantino est né en 1963, et donc on peut imaginer que ce qui l'a énormément impressionné sont les films qu'il a vus en tant que grand enfant et adolescent. Et donc je vais en parler de plusieurs. Alors, excusez-moi si je lis un petit peu. Quelquefois, je travaille avec un plan et c'est d'autant mieux, mais même vous allez voir à la fin de la conférence, ma pensée n'est pas tout à fait mûre et peut-être que vous allez m'aider à la parfaire. Alors, il ne s'agit pas dans cette petite conférence d'interroger les films de Tarantino pour isoler un sentiment politique dans le sens d'une émotion partisane, démocrate ou républicain, conservateur ou progressiste. Néanmoins, Inglourious Basterds et Django Unchained sont des films politiques et forment un cycle. Alors, le mot politique dérive du mot grec « polis », la cité. Et faire la politique, c'est essayer d'influer sur la vie d'un groupe. Dans Inglourious Basterds and Django Unchained, me semble-t-il, Tarantino traite des groupes, les Allemands, les Juifs, les Blancs et Noirs américains, des relations antagonistes entre ces groupes, les crimes commis par les uns sur les autres. Mon point de comparaison est Kill Bill, film diffusé en deux parties en 2003 et 2004. Les deux films les plus récents, Bastards et Django, pourraient aussi être vus comme les deux parties d'un seul film. Kill Bill raconte en deux parties l'histoire de son protagoniste, Beatrice Kiddo, dite la mariée, jouée par Uma Thurman. De manière comparable, le même acteur, Christoph Waltz, jouant un Allemand, lit Inglourious Basterds et Django Unchained, montrant deux aspects du même personnage de Teuton, l'efficace tueur sadique du XXe siècle et son prédécesseur, le démocrate du XIXe siècle. Vu l'époque du film, deux années avant la guerre de sécession qui commença en 1860, et l'âge du personnage, nous pouvons supposer que, comme d'autres immigrés allemands, King Schultz, le dentiste itinérant, métamorphosé en chasseur de primes, a quitté son pays dans le sillon des mouvements progressistes contestataires de 1848. Kill Bill est un film duel qui relate la vengeance de Beatrice Kiddo contre les assassins dont son amant est le père de son enfant à naître, qui ont surgi dans la chapelle où devait avoir lieu son mariage, massacrant tout le monde. Le film fait de la mariée un personnage féminine qui maîtrise le kung-fu et les autres techniques létales, attaquant et se défendant comme un homme ou mieux qu'un homme. C'est un assassin, pas forcément plus moral qu'un autre, mais on a pitié d'elle, une compassion liée à sa féminité. Outre le meurtre, des séquences au début de Kill Bill relatent les abus subis à l'hôpital où un infirmier vend son corps comateux pour des relations sexuelles. C'est une tueuse métamorphosée par sa maternité future et son renoncement au clan de tueurs lui servant de famille la métamorphose en femme victime. Un peu comme les héroïnes des premiers feuilletons, toujours en danger de leur vie et toujours sauvées par le héros. Mais au fait, c'est elle qui se sauve. On peut citer le feuilleton de Pathé, The Perils of Pauline, grand succès de 1914. Mais Béatrice est autonome et se venge toute seule. Pourtant, son histoire reste personnelle et forcément excentrique. Inglourious Basterds aussi raconte la vengeance d'une femme, Shoshana Dreyfus, qui se venge non seulement de sa famille morte, mais aussi de tout le groupe qu'elle représente, les Juifs d'Europe, symbole de toutes les victimes de la terreur nazie. Dans Django Unchained, le protagoniste Django se bat pour libérer sa femme et venger leur couple des injustices et mauvais traitements des Blancs, Mais au-delà du personnage individuel, Django, le représentant d'un groupe, les esclaves africains du sud des États-Unis et peut-être tous les esclaves, y compris ceux qui souffraient sous le joug nazi. Inglourious Basterds et Django Unchained sont des films historiques, on va le mettre entre guillemets, dans des décors et costumes d'époque qui commentent des périodes vraiment sinistres dans l'histoire de l'humanité. Similaire en ce qu'un groupe d'humains méprisés et privés de son humanité est totalement asservi à la volonté d'un autre groupe se croyant supérieur. Ce sont aussi des films historiques fonctionnant ici, voilà, il faut, arriver à historique. Alors, historique, ça veut dire que ce n'est pas une histoire, c'est une histoire alternative, une histoire qui n'est pas l'histoire. Dans la même chose comme utopique. Okay? Utopique, ça n'existe pas, ça ne pourrait pas exister. Donc, Inglourious Basterds, c'est une version alternative de l'histoire. La guerre est écourtée, le cinéma explose, Hitler meurt, Goebbels meurt, ils meurent tous, mais même avec nos amis. Et c'est formidable, on est très content à la fin, parce que, mais ce n'est pas réel. Donc c'est une version alternative de l'histoire. Donc, j'ai fini ma première introduction et je viens à ma prochaine image. Le cinéma de Tarantino peut rendre fou. Alors, si vous achetez les livres proposés par Mola, qui sont certains excellents, je vous recommande celui de Philippe Ortoli, qui est assez récent, enfin, il sortait il y a quelques mois, et va jusqu'à Inglourious Basterds. Vous commencez à lire, après 10 pages, après 20 pages, après 50 pages, vous voyez que Tarantino a une sorte de feu sacré qui réveille chez les critiques et chez les cinéphiles, chez les spectateurs, la même folie. Enfin, on commence à entrer dans une dimension peut-être alternative où chaque image, chaque mot, chaque séquence compte. Et on se casse la cervelle pour savoir mais d'où ça vient et où est-ce que je l'ai vu avant et qu'est-ce que ça veut dire la juxtaposition de ces deux images et de ces deux séquences. Dans la prochaine partie, je vais vous donner des exemples de correspondance entre des choses qu'on voit dans le film de Tarantino et autres détails similaires dans le reste du cinéma, qui sont grisants. On commence et ça devient une chasse au trésor absolument grisant. Alors, l'histoire n'est pas le seul référent de ces deux films. Nous avons déjà dit que ce sont des histoires de vengeance, un genre tout à fait typique de l'auteur, très fourni dans la littérature et les arts du spectacle. Pensons à Hamlet. En plus, comme chacun sait, l'une des marques de fabrique du cinéma tarantinien est le foisonnement de références à ses propres films comme aux films des autres. C'est une mine d'or pour les critiques et les professeurs ou tout simplement pour les cinéphiles obsessionnels. C'est un cinéma d'auteur dont les récurrences de film en film signent une œuvre cohérente et inimitable. C'est également un cinéma hybride ou bâtard qui mélange tous les genres, créant une nouvelle espèce. Donc, c'est un cinéma pour ceux qui possèdent un VHS, bon, ben, c'est fini, un DVD et notamment un home cinéma, qui peuvent voir et revoir des films comme Tarantino lui-même. Comme vous savez, il a quitté l'école très très jeune pour aller travailler dans un magasin de vidéos. Okay. Donc, il a vu à volonté, autant de fois qu'il a voulu, énormément de films. Donc, il connaît le grand corpus de films internationaux, les films de maître, mais aussi les films de série B ou de genre méprisé par certains intellectuels, films de kung-fu, western spaghetti, films gore, films dits d'exploitation à petit budget faisant appel aux réactions primaires des spectateurs devant la violence, le sexe, le sang. Ces références indiquent souvent les sources consultées consciemment ou inconsciemment par l'auteur, faisant participer leur imagerie à celle de son film. Dans Kill Bill 1, film de kung-fu, Beatrice Kiddo porte un survêtement jaune comme celui revêtu par Bruce Lee dans des films produits à Hong Kong. Alors le nom Schultz que nous avons entendu hier soir, que porte le dentiste chasseur de primes, apparaît dans d'autres films de Tarantino et notamment dans Kill Bill 2, où Béatrice est enterrée vivante dans la tombe d'une certaine Paula Schultz. Ce nom apparaît aussi dans Le Grand Silence, un autre western spaghetti plus beau et plus désespéré de Sergio Corbucci de 1968, qui a beaucoup influencé Django. Et c'est l'une des sources avouées pour Django. Alors, le plus grand tueur et tireur de la région que les villageois attendent pour les sauver contre les méchants chasseurs de primes sadiques s'appelle Bobo Schultz. Samuel L. Jackson, donc on l'a vu dans le film, jouant magistralement Stephen ou Snowball, l'oncle Tom, parfait. Donc, c'est un acteur qui apparaît souvent, c'est l'un des grands acteurs des États-Unis, le deuxième plus payé aux États-Unis des acteurs actuels. Et il apparaît souvent chez Tarantino, dans Jackie Brown, dans Pulp Fiction, où il est merveilleux. Et là, vous voyez, c'est un maquillage, où c'est un afro-américain, mais qui est grimé. En afro-américain de l'époque, avec des lignes sur les joues, exagérant une apparence stéréotypée. Alors, ce qu'on voit quand on voit Samuel Jackson, ce n'est pas seulement l'écho de tous les autres personnages qu'il a joués chez Tarantino, mais aussi le fait que Jackson lui-même a été dans sa jeunesse un membre des Black Panthers et il a aidé à porter le cercueil de Martin Luther King. Et donc, c'était un militant des droits civils et alors, on le voit dans le film, donc jouant un rôle qui va tout à fait à l'encontre de sa mouvance personnelle. OK? Donc, tout cela, c'est des nourritures, je ne sais pas si sont célestes, mais enfin, ce sont des nourritures accessoires qui se rajoutent à l'action. Alors, Samuel Jackson, magnifique acteur. Et quand on arrive au nom de la femme de Django, Brunhilde ou Brunhilde von Schaft, ça fait référence à Schaft, héros de la Blaxploitation. Comme vous voyez un film, il y a eu un remake, c'est un détective, un policier noir. Et dans les années 70, il y a eu une série de films avec des héros et des vedettes noires. Et mais pas tous des œuvres d'art, et ça s'appelait le Blaxploitation. Alors, à ce moment-là, il s'est développé ce personnage de policier Shaft, il y avait une série de télévision, et là, nous avons Samuel Jackson qui, en 2000, a joué Shaft, et Brunhilde s'appelle Brunhilde von Schaft. Donc, les choses comme ça sont lancées dans l'air. Par exemple, dans le film, vous avez remarqué quand le personnage qui joue une connaissance de l'esclavagiste qui organise le combat de Mandingo, entre guillemets, Franco Nero, l'acteur qui a joué Django chez Corbucci, est joue cet ami, il ne supporte plus de voir le spectacle, il demande à l'une des hôtesses son manteau. Il dit « Mercedes, mon manteau ». Quel était le nom de la femme tuée, la femme assassinée de Django, dont il revient voir le tombeau dans Django? C'était Mercedes. Et on le voit au bar, et là, ça, on a fait un grand battage autour de cela. Il vient au bar, et voilà Django qui lui dit « Je m'appelle Django, le dé est silencieux ». Et Franco Nero qui lui dit « Je sais ». Et on voit ses mains, ils sont recouverts d'énormes gants, parce qu'à la fin de Django, ses mains sont une pulpe. Il ne peut plus tirer. Il accroche son revolver sur la croix de la tombe de sa femme. Et comme ça, il arrive à tuer ses ennemis. Mais on peut imaginer qu'il avait toujours par la suite de grandes difficultés avec ses mains. Donc, tout cela, dans cette petite séquence de moins d'une minute, il y a plusieurs références à autre chose. Donc, c'est un jeu entre Tarantino et lui-même, et Tarantino et nous, et ça fait partie des joies des films de Tarantino. Les sources de Tarantino ne sont pas cachées, comme dans une œuvre qui se prétend originale tout en pompant les idées des autres. Elles sont avouées, voire fléchées par le réalisateur. Et leurs richesses en combinatoires divers font partie de l'érudition alternative d'un artiste qui a passé son adolescence déployant sa mémoire et son intellect sur le matériau fourni par les écrans de cinéma plutôt que sur les bancs de l'école, parce qu'il s'est dépêché de quitter l'école. Voilà. Alors, on va un peu plus loin. Les sources... d'Inglourious Basterds et Philippe Ortoli, dont je vous ai parlé, qui est vraiment incroyablement érudit, appelle ce déferlement de références le musée de cinéma que comprend chaque film de Tarantino. Alors, Inglourious Basterds était vraiment très longtemps dans l'atelier de Tarantino, qu'il a commencé dans les années 90. Il rappelle deux films en particulier. Un film italien, Questo maledetto treno blindato, de 1978, d'Enzo Castellari, et dont le titre anglophone est Inglourious Basterds, mais bien écrit, sans les erreurs dans le titre de Tarantino. Et ce film-là, de Castellari, était basé sur Les 12 salopards, The Dirty Dozen, de Robert Aldrich, de 1968, tout en faisant parfois penser au Dernier Métro, 1980, de Truffaut. On remarque en passant que toutes les sources mentionnées ci-dessus sont des films des années 60 et 70. Donc, ces références enrichissent et amplifient la narrative dans la première séquence de Bastards. Alors là, le décor rappelle un plan célèbre d'un film célèbre, La prisonnière du désert, de John Ford, 1956, The Searchers in English, où il y a, au début, les gens sont à l'intérieur d'une maison et on voit le désert, une lumière aveuglante à travers la fenêtre. Donc, dans ce film, on voit des colons vulnérables, des Indiens impitoyables, une famille massacrée et une jeune fille épargnée et qui se sauve. Et en l'occurrence, elle est adoptée par les Indiens. Mais pour le cinéphile obsessionnel, l'idée d'un massacre et d'une survivante est annoncé dès le départ. Et voilà la première image, donc, d'Inglourious Basterds. On a souvent remarqué la place que prend dans ce film le thème du cinéma lui-même. En effet, le dénouement va dépendre de la convergence de deux films antithétiques. Le film de guerre supposé documentaire sur le héros, Frédéric Zoller, qui joue son propre rôle dans le film, Fierté de la Nation, et le petit film Vengeance du grand visage, mis en œuvre par Shoshona pour introduire le feu de pellicule que son compagnon Marcel va allumer. Le major britannique, Hickok, est un critique de cinéma spécialiste du cinéma allemand. L'espion au service de la couronne est une vedette, Brigitte von Hammersmark, et Joseph Goebbels se considère comme un auteur de cinéma. Le film, dans le film réalisé sur Frédéric, donc Fierté de la Nation, est à vrai dire réellement un film que Tarantino a fait réaliser. Il apparaît comme un bonus dans le DVD du film. On remarque sa violence qui consiste uniquement à des tueries par balles, un peu plus intensément débitées que dans les films de Tarantino. Les trois bastards qui vont assister à la soirée de première dans le cinéma de Shoshona doivent choisir des rôles selon leurs possibilités linguistiques. Ils y vont jouant le rôle de producteur italien, leurs costumes pour la soirée incluant des bâtons de dynamite attachés à leurs chevilles. Finalement, Hans Landa, le chasseur de juifs, propose à Rain de raccourcir le guerre en se vendant aux forces alliées, choisissant de prendre un nouveau rôle, celui d'Américain prospère fréquentant l'île de Nantucket, rôle que lui empêche de jouer Rain, qui lui taillade le front avec un swastika indélible, rendant impossible la métamorphose. Le personnage de Landa trouve ici une petite justification dans la biographie de Himmler, architecte de la Shoah, qui avait proposé aux Alliés d'écourter la guerre en trahissant Hitler. Il y a des étudiants d'histoire ici qui connaissent peut-être les détails de cet événement. Avec Inglourious Basterds, Tarantino se rapproche du cinéma classique, c'est-à-dire le cinéma de l'âge d'or américain. En rajoutant à tous les autres plaisirs de son cinéma, c'est-à-dire l'action, le dialogue, l'humour, le violence si on aime, le manichéisme. Ici, les bons sont bons, les mauvais sont mauvais et l'identification sans arrière-pensée est autorisée. Shoshona est un personnage multiple, presque allégorique, et représente, symbolise toutes les personnes soumises à la terreur nazie. L'action de vengeance qu'elle organise, donc la vengeance de la figure géante où elle jette aux nazis le fait qu'ils vont être détruits par une juive, est applaudie sans réserve par le spectateur. Beaucoup de ces caractéristiques se trouvent dans le film suivant, enfin il y a un petit encart, mais le film suivant qui est Django Unchained. Ce film aussi conduit le spectateur à s'identifier avec un peuple opprimé, les esclaves noirs du Sud. Dans Inglourious Basterds, nous sommes confrontés à la sauvagerie du froid massacre d'une famille cachée sous un plancher, comme des rats. Tarantino n'aborde pas les horreurs des camps, traitées dans le cinéma populaire par Spielberg, dans la liste de Schindler, 93, et à la télévision, et là ces deux mini-séries sont importantes, une mini-série de 78, Holocaust, et il y avait une autre mini-série des années 70 qui s'appelait Racines, Roots, sur l'épopée du peuple afro-américain. Et sa date est 1977. Et comme dans Inglourious Basterds, l'un des protagonistes, Schultz, invente une sorte de film, une fiction, pour entrer dans la plantation de Candy et récupérer Brumhilde. Le scénario échoue dans un premier temps, vaincu par la réalité diégétique. Donc, le film ultra-violent devient moralisé est une critique du sadisme et de la violence. Et le spectateur se trouve paradoxalement dans la situation de celui qui regardait jusqu'aux années 60 les films des grands studios soumis aux conditions imposées par le Hays Code, célèbre charte d'autocensure exigeant par exemple que les criminels soient punis. Alors tout ça, c'est un développement imprévisible dans le cinéma de Tarantino, qui a été accusé de tous les crimes cinématographiques, à vrai dire, cinéma dégradant, cinéma trop violent, on ne peut pas voir ça, c'est peut-être drôle, mais c'est horrible. Donc, on arrive aux sources de Django Unchained, son musée de cinéma. Comme Inglourious Basterds, Django Unchained offre aux spectateurs une moralisation similaire de sa violence. Celle des protagonistes King Schultz et Django n'est jamais gratuite, à la différence de celle des esclavagistes souvent démesurés. Les tueries des chasseurs de primes sont légales, sinon morales, comme celle d'ailleurs des esclavagistes, mais seulement dans leur comté du Mississippi et pas dans le monde du spectateur. Pourtant, dans ces deux films, la ligne entre les bons et les méchants est clairement marquée. Inglourious Basterds, comme le film suivant, et je pense que je vais le dire plusieurs fois encore, restitue le plaisir du manichéen. Et voilà, et c'est un composant absolument indispensable au cinéma américain classique, même si les personnages ont des défauts, c'est-à-dire les bons, c'est compensé par les vertus. King Schultz autorise la suppression d'un fermier, ancien criminel recherché par la justice devant les yeux de son fils, décision que lui reprochera plus tard Django. Mais par ailleurs, il est pétri de vertus républicaines américaines, égalitaires et anti-esclavagistes. Alors, il y avait un premier film sur Django dont personne ne parle parce que c'est parfaitement anodin et pas très intéressant. Je l'ai vu. Il s'appelait Django le Proscrit et il se passe au Mexique. Et le cowboy qui ne peut pas rentrer chez lui parce qu'il a vengé le meurtre de sa femme en tuant les assassins. Beau, mais ça n'a rien à voir avec les Western Spaghetti, donc Django, dont on a vu un petit bout, et aussi un autre Western Spaghetti dont j'ai déjà parlé, Le Grand Silence, avec Trintignant et Kinski. Et qui peut imaginer un méchant plus méchant que Klaus Kinski? Trintignant joue le Django de ce film-là, enfin l'équivalent, qui vient protéger les gens des montagnes qui sont meurtris par des chasseurs de primes méchants qui désignent avec des banquiers des coupables pour les tuer et prendre l'argent. Donc, ils sont parfaitement criminels, il n'y a aucune justification. Et ce film a la particularité de très mal finir, c'est-à-dire tout le monde est massacré à la fin du film et les chasseurs de primes s'en vont. Les méchants gagnent. Ce film était tellement violent qu'il n'a pas été montré dans certains pays. Je vous montre des clichés donc, de Django et dans le cercueil, il a un Gatling gun, c'est-à-dire l'ancêtre de la mitraillette, voilà, qu'il sort quand c'est nécessaire. Et voilà d'autres plan du film. Comme vous voyez, il y a des sacs sur la tête. On a vu ça dans le film Django Unchained, mais là, ils sont rouges. C'est donc Django 66 de Corbucci. Vous voyez ses mains en pulpe rouge. Et là, il pose son revolver sur la croix de la tombe de sa femme. pour tuer les méchants. Voilà. Mais un film qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus triste, c'est Le Grand Silence. Et vous avez déjà reconnu donc des plans qui sont similaires de ceux dans Django Unchained de la montagne neigeuse. Okay. Dans l'hiver, où ils sont en train de collectionner les primes et ils vont voir le collègue, le juge, dans sa cabane, dans la neige. Le Grand Silence, film archi triste et archi violent, donc, a lieu dans une contrée de la plus pure beauté, avec des volées des oiseaux qui traversent le ciel. Et donc, c'est très esthétique et très, très écœurant. Bon, il y a aussi, il y a dans Django Unchained, un western, donc basé sur les films de Corbucci, mais aussi un southern, c'est-à-dire un film sur le sud des États-Unis. Et pour ce film aussi, il y a des antécédents. Il y a un film de Richard Fleischer, de 1975, qui s'appelle Mandingo. Au fait, excusez-moi, j'avançais trop. Donc, dans Mandingo, on a un portrait à outrance d'une plantation sudiste où les actes de sudisme les plus dégoûtantes ont lieu, mais c'est une histoire plus compliquée que ça, parce que le fils de la famille, donc, et ce n'est pas lui, aime beaucoup les Noirs. Il a une maîtresse noire qu'il adore. Il a une femme blanche dans la tradition de Tennessee Williams qui sort d'une relation incestueuse avec son frère. La femme, abandonnée par son mari, a une liaison qu'elle force avec le magnifique esclave Mandingo, qui est héros de combat. Il y a un enfant qu'on supprime devant nos yeux. Et puis, voilà, le propriétaire de la plantation, sachant que le bébé est celui de son esclave, tue tout le monde. Il tue sa femme, il tue l'esclave. Et puis voilà. La maison est très, très sale. Ce n'est pas le luxe qu'on a vu à Candyland. C'est vraiment sordide. C'est un sud sordide. Et je pense que cette image a été refusée. Personnellement, je pense que ça vaut une autre et que c'est peut-être assez proche de la réalité. Vous avez des choses très pittoresques, comme James Mason, c'est le père, le patriarche. On lui dit dans un dîner, vous savez, si vous avez des rhumatismes, vous prenez un petit esclave, vous le mettez près de vos pieds et vous appuyez vos pieds sur le petit esclave et le rhumatisme part dans l'esclave. Et donc, il y a un tout petit, adorable petit garçon qui vient, très relax, se mettre aux pieds de ce patriarche pour lui enlever les rhumatismes. Et on comprend que c'est un pays d'obscurantisme et d'ignorance où tout peut arriver et voilà. Mais dans ce film, j'ai pris donc ce cliché d'un propriétaire d'esclaves et organisateur de combat de Mandingo dans ce film. Et d'ailleurs, je crois que ça n'a jamais, on n'a jamais authentifié l'existence de ce sport de combat. Mais vous voyez que c'est le même maquillage, la même figure que Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Donc, c'est un modèle pour ça. Et on a beaucoup parlé des vêtements que choisissent Django quand il peut choisir pour la première fois ses vêtements. Et tout le monde a dit, oh, pas tout le monde, mais plusieurs auteurs sur Internet ont dit, mais mon Dieu, regardez une ressemblance avec ce portrait de Greensboro, Blue Boy. Et ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais, peut-être, ok. Mais si vous regardez dans Mandingo, Là, c'est un esclave, c'est l'esclave principal dans une maison close à la Nouvelle-Orléans qui vient dire qu'il faut partir à l'esclave de notre protagoniste. Et ils vont se battre. Et on va ainsi découvrir le talent pour le combat. Mais vous voyez, c'est également un habit du XVIIIe siècle. Et donc, Django a choisi une tenue d'esclave supérieur, donc parfaitement historique. Et vous avez remarqué des scènes très affligeantes, donc dans Django, où Django est renversé, tenu par les talons. Voilà. Et sa tête touche presque par terre. Alors ici, nous avons une scène où on va, le jeune propriétaire va apprendre à un esclave comment battre un autre esclave. Comme il ne déteste pas les Afro-Américains, il va lui dire d'aller doucement, 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 pas casser le dos parce que ça ne serait pas rentable. Et puis, il va arriver un autre propriétaire très sadique qui va le battre énormément. Donc, ce film de Richard Fleischer est référencé dans le film, et même il y a une autre scène. Si vous vous rappelez, ce n'est pas identique, mais vous vous rappelez quand Django arrive dans sa tenue bleue pour chercher le gang qui s'appelle des Schaeffer, celui qui a les pages de la Bible collées à sa chemise. Il fait une promenade à travers la plantation dans une soleil comme ça. Il y a une jeune fille qui se balance sur une balançoire. C'est assez paradisiaque. En fait, c'est une vision verte et ensoleillée de la plantation. Ce n'est pas à l'identique chez Tarantino, mais comme j'avais vu Mandingo quelques jours avant, hier soir, j'ai remarqué qu'il y a cette similarité. Ok, donc il y a des films des années 70 et tout le monde dit dans le film dans le Sud que c'est rare de voir un noir sur un cheval, mais dans le cinéma du Blaxploitation des années 70, il y avait énormément de films de cowboy. Et notre historien nous a rappelé hier soir qu'au fait, dans l'Ouest, c'est-à-dire pas dans le Sud a toujours été une terre à part. Pour moi, je suis new-yorkaise. Et 30% des cowboys étaient afro-américains et libres. Donc, j'ai mis une image assez drôle, parce que c'était un film comique, de Mel Brooks, de 1974, totalement parodique, très vulgaire, où le shérif donc est un Afro-Américain, et il y a également un autre personnage très important dans ce ville de l'Ouest qui est rabbin. Et donc, ça ressemble un peu à New York, mais petit à petit, le décor s'efface et on sait que c'est une fantaisie la plus complète. Enfin, ce n'est pas un film important, mais ça montre qu'il y avait quelque chose à parodier. Donc, certaines sources sont plus classiques et peut-être plus élevées. Pendant le film, Django est l'élève de Schultz qui lui apprend à lire, à tirer, à négocier, à compter et même à jouer la comédie. Plusieurs critiques ont remarqué leur relation comme ressemblante à celle d'un professeur de l'art dramatique à son élève. Aux yeux de Schultz, Django devient une sorte de Siegfried à la recherche de sa bien-aimée tenue prisonnière. Pour le spectateur, il devient une sorte de prince charmant qui doit libérer la princesse tenue prisonnière. Le côté conte de fées est renforcé par certains détails, comme le fait de présenter son cheval quand on présente soi-même. He says, these are our horses. Tony and Fritz, and the horses baissent leur tête pour dire bonjour, comme dans un film de Walt Disney. Le film est donc une sorte de Bildung, un film d'éducation. Django apprend même à dresser son cheval comme un Lippizaner, célèbre monture du manège de Vienne. Après avoir joué le rôle d'un esclavagiste noir dans le scénario imaginé par Schultz, sorte de cinéaste délégué à l'intérieur du film, mettant en scène ses tueries et ses rencontres avec les shérifs, aussi bien... Oh oh. Excusez-moi. Aussi bien qu'à la fin du film, Django devient une sorte de nouveau Schultz, débrouillard et doté d'une faconde similaire. Ok, preuve que le film est politique, il y a eu des réactions de type politique à ce film par Daniel Mendelsohn à Inglourious Basterds. Et disant que le film était indigne, Inglourious Basterds, et il transforme les Juifs en nazis. Et donc le comportement des bastards n'est pas digne d'un Juif. C'est un très, très intellectuel, très raffiné auteur qui travaille, un classiciste qui travaille beaucoup sur la mémoire juive. Et en ce qui concerne Django Unchained, Spike Lee a dit, donc Spike Lee, auteur afro-américain et qui a fait notamment une magnifique biographie de Malcolm X, African Slavery n'était pas une western spaghetti de Sergio Leone. C'était une Shoah. Mes ancêtres sont des esclaves volés de l'Afrique. Je vais les honorer, et sa manière de les honorer, c'est de ne pas aller voir Django Unchained. Ok, nous touchons presque à la fin, et donc plus d'extraits, des débats, j'espère. Le film classique américain est bien connu pour son happy end, et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un happy end dans ces films? Ou est-ce qu'on peut l'appeler « u-happy », c'est-à-dire un bonheur alternatif qui peut-être n'existe pas. Si vous connaissez Kill Bill, vous savez qu'à la fin du film, nous avons une image très classique. Beatrice Kiddo a récupéré sa fille qui est à l'arrière de la voiture. Elle conduit dans l'avenir, elle va être toujours heureuse avec sa petite fille. Mais si vous rappelez la première partie du film, la première des autres assassins qu'elle a tués s'appelait Virna. Et elle l'a tué devant les yeux de sa petite fille dans sa cuisine. Et elle a dit à la petite fille, voilà ce que j'ai fait, ou je l'ai fait, quand vous serez grande, si vous voulez me pourchasser de votre vengeance, allez. Je serai prête. Donc on sait qu'il y a une ironie au cœur du bonheur de Beatrice Kiddo. Il n'y a pas seulement matière pour un autre film qui ne s'est jamais produit, mais il y a aussi quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Alors j'ai été très impressionnée par un film de 2007 dans lequel Tarantino a joué comme acteur. De Takashi Miike, qui s'appelle Sukiyaki Western Django. C'est un film japonais où tous les acteurs japonais parlent anglais. Il y a des sous-titres. Et c'est extrêmement violent, mais en même temps très esthétique. Et il y a un petit personnage qui m'a fasciné. C'est un petit garçon, Heihachi. Bon, ce petit garçon voit d'abord son père assassiné et pendu. Alors, il devient muet et ne peut pas parler, ce qui rappelle le Django du Grand Silence, qui a été témoin du meurtre de ses parents et qui a eu les cordes vocales coupées pour qu'il ne puisse pas témoigner. On n'a pas pensé à l'écriture. Et ce petit garçon, donc, il a un premier choc. Deuxième choc, sa mère est assassinée devant ses yeux et il devient aveugle. Il ne veut rien voir. Alors, on aurait dit qu'il est fichu. Ce petit gamin, syndrome post-stress, etc., il est vraiment tragique. Tragique, ce qui tranche dans un film où il n'y a que tuerie et violence et vraiment pas de pathétique.